Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube sur Radio Panique et je suis en compagnie de notre invitée de ce matin. Bienvenue Audrey Van Brabant.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, merci d'être venue de grand matin gravir les 100 marches pour arriver au studio de Radio Panique. Et donc si vous êtes là, c'est pour nous parler de la 5e édition des Journées du Matrimoine, les Matrimony Days, qui auront lieu le week-end.
Du 29-30 septembre et 1er octobre. C'est la première fois qu'on est à cheval sur deux mois.
Sur les deux mois. Et donc, vous êtes journaliste et vous coordonnez cette année, c'est cette 5e édition.
Oui.
Et vous travaillez depuis quelques années, je pense, à l'architecture qui dégenre, qui est l'ASBL qui a été créée il y a quelques années pour justement promouvoir cette architecture au féminin et visibiliser ce matrimoine.
Oui, tout à fait. Je travaille pour l'ASBL depuis 2 ans maintenant. Donc c'est la 2e édition des Journées du Matrimoine que je coordonne avec ma collègue Rosalie Lefebvre et avec l'ensemble de notre ASBL. Cette année, c'est une édition un peu particulière parce que c'est nos 5 ans. On aime beaucoup dire que c'est une édition, un demi-siècle finalement, parce que c'est le cas. Et effectivement, ça fait 5 ans du coup que un week-end par mois, juste après les Journées du Patrimoine, les Heritage Days, Bruxelles se concentre sur le matrimoine contemporain et historique bruxellois.
Et donc cette réflexion, cette visibilisation du matrimoine et de ce que les femmes ont pu apporter à la ville et à l'espace public 5 ans après avoir commencé, évidemment des initiatives avaient lieu avant les Journées du Matrimoine, mais est-ce que c'est toujours pertinent? Expliquez-nous un peu comment vous travaillez, quelles sont les réactions que vous avez, est-ce que ça commence à percoler dans les esprits? Est-ce que vous avez plus d'enthousiasme qu'avant?
Mais effectivement, je pense qu'on peut dire que les choses évoluent et qu'elles vont dans le bon sens. Je crois que l'enthousiasme, il a toujours été là. On a un public on a un noyau, en tout cas, dans notre public qui est très fidèle, qui vient depuis le début et qui viendra, à mon avis, jusqu'à ce que les Journées du Matrimoine s'arrêtent. Et j'espère qu'elles ne s'arrêteront jamais, évidemment. Donc oui, il y a toujours de l'intérêt parce qu'il y a toujours un tas de choses qui avancent en parallèle des Journées du Matrimoine. Il y a davantage de recherches, il y a davantage de recherches sur les archives, notamment. Je pense que les Journées du Matrimoine auront toujours leur intérêt, même si la société dans son ensemble évolue sur ces questions-là aussi. Mais il reste encore tant de choses à faire découvrir. Et en réalité, quand on y pense, nous, nos visites guidées, c'est toujours entre 20 et 30 personnes qui assistent. Alors, il y a des visites guidées qui sont déjà refaites plusieurs fois sur le week-end. Et puis, on a des best-of aussi cette année qui sont des visites qui ont déjà été faites plusieurs fois lors des différentes Journées du Matrimoine et de la saison matrimoine qui est pendant l'année, mais ça ne reste que 20-30 personnes qui peuvent y avoir accès, et c'est pas grand chose finalement. Donc il y a certaines visites qu'on pourrait refaire à l'infini. Je pense notamment à la visite d'Apolline Vranken sur le béguinage de bruxellois. Elle l'a déjà donné à environ 1000 personnes et sa visite était complète cette année en, je crois, 5 minutes. Donc on voit que même l'intérêt pour des visites qui sont déjà là depuis plusieurs années est toujours présent. Donc je crois qu'on a encore une longue vie devant nous.
Et j'ai une question, c'est un peu le cas toujours quand il y a des festivals ou des événements comme ça qui sont dédiés spécifiquement aux femmes. Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, les Heritage Days se sentent dispensés d'aborder les questions de présence des femmes justement dans l'architecture parce qu'ils se disent que vous le faites et que vous le faites très bien et donc que c'est... de faire percoler ça dans l'ensemble de la réflexion, on vous laisse le faire.
Non, je pense pas qu'on en soit exactement là. Je pense que déjà on collabore beaucoup avec les Heritage Days qui avaient lieu notamment le week-end dernier et où il y a des visites que nous on propose dans le cadre de ces journées-là. Donc je pense pas qu'ils se dispensent de le faire sous prétexte que nous on le fait. Il y a quand même un partenariat qui a lieu depuis plusieurs années et une collaboration. Mais il n'empêche que les Journées du Matrimoine sont nées d'un constat d'absence de la représentation de cet artisanat fait par les femmes et les minorités de genre, que ça partait d'une aussi de réel oui constat que en fait ça manquait. Ça manquait, or la demande est là et nous on le voit chaque année parce qu'on chaque année on a de plus en plus d'activités, chaque année on a de plus en plus de personnes qui participent à ce qu'on propose. Donc il y avait aussi cette idée que peut-être que c'était fait mais pas assez ou timidement ou noyé dans une masse plus grande. Et puis il y a rien à faire, le public que nous on a aux Journées du Matrimoine n'est pas forcément le même que celui qui aurait Heritage Days, et c'est très enrichissant pour nous parce que on récupère parfois de leur public aussi, et nous on peut en attirer un autre vers eux. Mais donc voilà, je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui avait des envies et des besoins plus spécifiques concernant le matrimoine, l'artisanat et toutes les choses qu'on propose pendant les journées.
Et justement, comment vous préparez le programme qui est très dense et qui s'adresse à un vaste public, et même que ça va des enfants déjà 10 ans jusqu'aux adultes.
Jusqu'à quand on a envie.
Voilà.
La programmation pour les jeunes et les enfants, elle existe depuis 2 ans. Donc on a aussi eu la volonté de se dire que plutôt on est sensibilisé et informé sur ces questions-là et sur les thématiques qu'on aborde, mieux c'était finalement. Donc effectivement, on a une programmation qui est très riche au niveau des contenus. Donc tant le support, on a des visites guidées, on a des activités pratiques, des workshops, il y a des événements grand public avec des écoutes collectives, des conférences, etc. Que au niveau des contenus de toutes ces activités. Donc on parle d'artisanat, comme on a la visite d'un atelier de typographie par exemple. On parle de questions de décolonisation, de futurisme même, de comment la ville sera imaginée dans 10, 15, 20 ans. On parle de patrimoine historique avec la visite d'un appartement d'une architecte moderniste. Donc il y a vraiment une grande richesse dans ce qu'on essaie de proposer, parce qu'on veut qu'il y en ait pour tous les goûts. On veut que tous les corps de métier, toutes les préoccupations contemporaines soient représentées aussi. Donc on a un gros travail qu'on fait qu'on commence généralement au début de l'année avec notre comité d'accompagnement qui est composé donc de 8 expertes avec des expertises très différentes qui nous aident réellement à constituer cette programmation, à l'améliorer, à la faire grandir aussi et à l'alimenter, parce que finalement l'idée c'est de pas rester dans nos cercles non plus, c'est de se dire que le matrimoine est pluriel, a plein de visages différents, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on cultive beaucoup d'année en année.
Et est-ce qu'il y a une thématique particulière? Vous avez évoqué la question des archives, la nécessité justement de pouvoir conserver cette mémoire et la transmettre.
En fait, cette année, on a décidé pour notre campagne de communication et donc pour tout ce qui entoure finalement cette 5e édition, de repenser, enfin, c'est pas vraiment repenser, mais de plutôt faire un espèce de manifeste autour de cette 5e année, parce que précédemment, nous, nos affiches qui faisaient du coup la promotion des Journées du Matrimoine étaient toujours déclinées en 5 figures historiques liées au matrimoine bruxellois, sauf que on s'est rapidement rendu compte et on se faisait le constat chaque année que ça nous permet peu de diversité dans les figures qu'on propose, que ce soit de la diversité raciale ou de la diversité de genre, etc. Et que ça s'expliquait notamment par le fait que niveau archivage, on était encore très peu fourni, parce que beaucoup d'archives ont été détruites, pas exploitées, pas déposées, etc. pour un tas de raisons tout à fait structurelles. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour apporter de la diversité? L'année passée, on a opté pour du dessin parce que pour des questions de droit d'auteur, c'est déjà plus facile. Et cette année, on s'est dit, ok, chaque année, on se retrouve face à ce nœud. On a essayé énormément de choses. On a été en contact avec beaucoup de collectifs de terrain, beaucoup de militants et militantes pour vraiment nous essayer d'amorcer aussi une recherche un peu active. Mais il faut se dire que nous, on a une ASBL féministe, qu'on travaille à raison de 1 ou 2 jours par semaine. Donc on n'a pas non plus ni les fonds ni le temps nécessaires pour réactiver une réelle recherche. Et donc cette année, on a décidé d'appeler vraiment les universités, le politique, les différents pouvoirs décisionnels, les associations, etc., à activer une réelle recherche et une réelle mobilisation autour de quatre axes différents, qui étaient donc archiver, comme on se disait, prendre soin pour tout ce qui est restitution des œuvres, tout ce qui est prendre soin, même d'une manière très pratique, célébrer, parce que ça fait partie aussi de la lutte, et transmettre. Donc l'idée de pouvoir transmettre des savoirs les unes aux autres, pouvoir avoir des espaces pour le faire, prendre le temps de le faire. Donc cette année, c'est un peu ça l'ambition, de se dire que voilà, nous on existe depuis une demi-décennie, on a déjà fait tout ça, le matrimoine est encore très vaste, on va continuer à faire matrimoine, nous, comme on peut et pendant longtemps, mais que ça ne dépend pas que de l'architecture qui dégenre. C'est une réflexion et une lutte qui doit vraiment être globale.
Et vous avez eu un bon répondant, justement, des différents partenaires. Est-ce que...
Oui, on a toujours on a la chance d'être une ASBL qui est soutenue, déjà financièrement, parce que mine de rien c'est essentiel, et d'avoir différents partenaires qui sont là depuis plusieurs années et qui, je l'espère, seront là encore longtemps. Donc je pense qu'il y a des résonances à tous les étages, en réalité, de sensibilisation à ces questions et de volonté de les prendre à bras le corps aussi. Après, est-ce que c'est suffisant? Pour l'instant, si je réponds tout à fait à titre personnel, non. Ça, il reste encore un tas de chantiers et un tas de moyens, qui soient financiers ou autres, à mobiliser. Donc, je pense qu'il y a du répondant, mais qu'il pourrait avoir plus de répondants, bien sûr.
Et justement, dans la programmation, on voit qu'il y a quand même toute une série de partenariats, que vous ne faites pas tout tout
seul. Non, évidemment.
Est-ce que... Audrey, je pense qu'on peut passer en revue peut-être les différents types d'activités,
oui,
et la programmation.
Oui, évidemment. Du coup, toute la programmation est disponible sur notre site matrimonydays.be. La petite subtilité, c'est qu'il faut bien cocher votre langue quand vous arrivez sur le site, parce que les activités sont réparties en français et néerlandais. Tout est gratuit, ça c'est aussi très important de le dire, mais comme je le disais, on a un public qui est très fidèle et très réactif, et donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont complètes, ce qui est vraiment une excellente nouvelle, évidemment, et ce qui n'est pas forcément gravé dans le marbre, parce que la dernière semaine, c'est toujours un peu la semaine où il y a des annulations de dernière minute, donc il y a encore la possibilité de pouvoir attraper des places. Je vais peut-être me concentrer un peu sur ce qui reste. En réalité, il y a encore pas mal de places pour les activités en néerlandais, parce qu'on est à Bruxelles et pour nous, c'était évidemment essentiel d'avoir une programmation en partie bilingue. Donc, on a une dizaine d'activités qui sont proposées en flamand. Exclusivement en flamand, je pense notamment à la visite au Design Museum, dans la collection Cuir Graphics, qui est une exposition temporaire au Design Museum et qui sera animée par Marianne Lenz. Je pense aussi aux activités jeunesse, bien sûr, où on a beaucoup d'activités jeunesse, qu'elles soient pratiques ou qu'elles soient de l'ordre des visites guidées. On n'avait pas de visite guidée l'année passée, on est très contente d'en avoir cette année. Donc il y a une visite qui est du quartier Laeken, qui sera animée par des jeunes filles. Donc c'est très riche aussi de pouvoir, quand on est plus jeune, être animé par des gens de son âge. On a des ateliers de fanzine, de création de fanzine avec le collectif Quistax. On a un atelier avec le collectif Xeno aussi, de collage et de pour repenser la ville, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie dont on est très fiers. Après, il y a aussi encore des places pour nos événements grand public. Donc, on aura l'écoute de l'épisode 2 du podcast Les Absentes de Emmanuel Nsunda, avec une discussion ensuite. On reçoit le dernier soir Eva Kirillov aussi, qui est historienne de l'art et qui va nous parler de son travail et du livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Une place. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de richesse au niveau des contenus. On a encore des ateliers pratiques aussi, qui sont le vendredi, le samedi et le dimanche, notamment avec le collectif Fat Friendly, qui a pour but de repenser les espaces publics pour les personnes grosses. Ça va vraiment être de la pratique, que ce soit pour les personnes qui sont concernées, donc à l'urbanisme, des architectes, etc., mais aussi pour toute personne qui travaille par exemple dans un lieu culturel, parce qu'évidemment l'accessibilité, qu'elle soit pour les personnes grosses ou avec la collectif Frida, qu'on a aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, il y a vraiment une programmation qui est très variée et pour lesquelles il y a encore moyen d'avoir des places si vous êtes vraiment attentive et attentif au début de la semaine prochaine.
Et l'essentiel des activités auront lieu autour des Halles Saint-Géry, c'est ça?
Alors oui, cette année, on est donc en partenariat avec les Halles Saint-Géry, donc ce sera un peu notre camp de base. C'est là que toutes les activités pratiques se dérouleront, donc on a vraiment la chance d'avoir un cadre qui est très très beau. Enfin, les Halles Saint-Géry, c'est vraiment un bâtiment emblématique de Bruxelles avec une architecture et un cadre qui est tout à fait rêvé pour nos activités. En plus de ça, il y a donc les visites guidées un peu aux quatre coins de Bruxelles. On a une attention particulière à ne pas tout mettre dans la commune de 1000 Bruxelles. On a aussi des activités à Anderlecht, à Molenbeek, à Ixelles, à Saint-Gilles. Donc on essaie de vraiment ratisser tout le territoire bruxellois. Et puis après, des choses plus spécifiques dans des visites d'ateliers qui sont donc là chez les artisanes qui donnent l'atelier. Mais donc oui, effectivement, le camp de base sera les Halles Saint-Géry. C'est là qu'auront lieu aussi nos événements grand public. Et c'est là que ça grouillera pendant ces 3 jours.
Et vous avez évoqué plusieurs fois la question de l'artisanat. Est-ce qu'il y a des professions, justement, des corps de métier qui ont été à Bruxelles spécifiquement féminins et qui gagneraient à être revisibilisés?
Bah, alors, il y a forcément des corps de métier qui, historiquement, sont plus féminins que d'autres. L'année dernière, par exemple, pendant notre saison matrimoine, enfin, c'était pas l'année dernière parce que c'était tout à fait cette année, on faisait un atelier pratique de broderie et donc avec toute une réflexion autour de la broderie aussi qui a longtemps été cantonnée à ce que les femmes avaient le droit de faire sur leur temps, pendant leurs loisirs, etc. et qui... toutes mes excuses, qui en fait est un art très, très militant aussi et est tout à fait un artisanat qui n'est pas un artisanat de seconde zone, qui est tout à fait essentiel. Donc effectivement, historiquement, il y a des artisanats qui sont plus, je pense notamment peut-être aussi à la reliure et tout ça qu'on a pu traiter dans les années précédentes. Cette année, on n'a pas particulièrement des artisanats qui sont portés uniquement par des femmes. Et justement, on va chercher les femmes qui pratiquent des arts qui sont pas forcément... qui leur sont pas forcément ouverts, ou en tout cas où les femmes pour l'instant et minorités de genre sont minoritaires, et c'est par exemple le cas de cet atelier de typographie. Donc voilà, on essaye de faire un mélange de tout ça, et puis surtout chaque atelier est précédé ou suivi d'une conversation réellement avec les artistes qui partagent leur savoir, pour avoir une espèce de vision plus globale aussi de ce que c'est être typographe, être illustratrice, être travailler dans la linogravure quand on est une femme, et comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, etc. Donc on essaie de toujours accompagner de manière pédagogique les activités très pratiques.
Parce qu'effectivement, cette question des corps de métier, ça a modelé la ville aussi telle qu'elle
Bien sûr. Et donc moi, je suis la seule non-architecte de l'ASBL. Et c'est une des choses qui m'a le plus frappée et qu'on conscientise pas forcément, c'est que en réalité tout est architecture, tout est urbanisme, tout est design, et du coup si tout notre quotidien est régi par ça, forcément ça a une implication sur qui on est, qu'on soit une femme dans l'espace public, qu'on soit une personne racisée dans l'espace public, qu'on soit une personne en situation de handicap, etc., etc. Donc effectivement, le calcul est assez simple. Quand la ville est pensée uniquement par une catégorie de personnes, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas imaginer les vécus de toutes les autres personnes qui la composent. Donc effectivement, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans les journées du matrimoine, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans le travail de l'architecture qui dégenre, dans les formations qu'on peut donner, dans les accompagnements qu'on peut faire aussi. Il y a cette idée que ce n'est pas neutre la manière dont on compose une ville, ce n'est pas neutre la manière dont on même réfléchit un espace, que ce soit un espace culturel, un espace professionnel, que ce soit l'espace public. Enfin, c'est des choses qui sont très pratico-pratiques, les luminaires dans la rue, les assises dans les lieux publics. Enfin, il y a vraiment des choses très tangibles et très vraiment du quotidien qui, si elles ne sont pensées que par, ben là, comme c'est le cas depuis très longtemps, des hommes blancs d'une certaine classe, hétérosexuels, etc., forcément, ça a un impact sur toutes les autres personnes qui composent cette société.
Et y compris les maisons privées aussi, qui reflètent aussi une certaine façon de concevoir.
Ou de ne pas le concevoir, justement, ou de ne pas le rendre pratique et praticable. C'est quelque chose que les architectes sont confrontés au quotidien, de comment on pense les espaces de rangement, comment on pense les espaces de loisirs, comment on fait en sorte que ce soit pratique et facile de se mouvoir, d'attraper certaines choses, de pouvoir se déplacer pour ne pas avoir physiquement des difficultés. Enfin voilà, donc oui, effectivement, c'est de l'ordre de la société à une très grande échelle, mais c'est aussi tout à fait l'ordre de l'intime et de comment sont pensés nos habitats.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste refaire un mini point sur les événements grand public que vous avez évoqués? Il y en a un tous les soirs,
Tout à fait. Il y a un événement grand public par soir qui aura donc lieu au Hall Saint-Géry. Le vendredi et le samedi, ce sera dans ce qu'on appelle les caves du Hall, mais les caves des Halles, mais c'est pas des caves, quoi. C'est vraiment de très belles caves. J'aimerais bien avoir des caves comme ça. Et alors, le dernier soir, on aura même la chance, vu que ça se met mieux d'un point de vue organisationnel, derrière le bar des Halles Saint-Géry, si les auditeurs connaissent, donc vraiment derrière cet obélisque, où là on aura encore la chance d'accueillir plus de personnes, donc il y aura une centaine de personnes, un tout petit peu moins les deux autres événements, et il y a donc le premier soir le visionnage d'un documentaire sur les violences policières, suivi d'une discussion avec une journaliste et une experte, une anthropologue, et le deuxième soir cette écoute collective dont on a déjà parlé, et le troisième soir la conférence avec l'historienne de l'art Iva Kirillov. Donc voilà, tout ça a lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre, c'est toute la journée. Nos premières activités commencent les 3 jours à 10h et terminent du coup à 21h, quelque chose comme ça, à la fin des différentes rencontres. Et voilà, il faut venir, il faut... Et oui, très important aussi, le premier soir, on organise un drink d'anniversaire parce que c'est quand même notre anniversaire et ça se fête. Et ça aura lieu aussi au Hall Saint-Géry à partir de 17h30. Et c'est l'occasion de pouvoir remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent depuis le début. Et puis de pouvoir célébrer, en fait, parce que c'est ça aussi, comme on en parlait, c'est célébrer, c'est trinquer et c'est se rappeler que c'est déjà énorme tout ce qu'on a accompli et qu'on est très fiers de tout ce qu'on accomplira ensuite.
Et une dernière chose aussi, je trouve particulièrement chouette le fait que vous vous adressiez aussi aux jeunes et aux enfants. Est-ce que on peut faire aussi un petit tour pour mettre en avant, parce que j'en ai repéré quelques-unes,
oui,
mais peut-être que j'ai loupé l'une ou l'autre.
En réalité, pour nous, c'est hyper important de les mettre en avant aussi, parce que c'est pas forcément un public qu'on avait l'habitude de toucher les 3 premières années, parce que mine de rien, on a un public qui est assez soit dans notre tranche d'âge, donc 25-30 ans, soit dans des tranches d'âge plus âgées, donc des personnes qui sont retraitées ou qui ont des enfants plus grands, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a aussi la logistique quand on est parent et qu'on veut profiter des activités en week-end. Donc, chose importante aussi, nous, on met en place une garderie pendant toute la durée des journées du matrimoine pour que justement ce ne soit pas un frein pour les parents, avec des animateurs qui sont vraiment là pour s'occuper et pour garder les plus petits. Et donc, pour revenir à cette programmation jeunesse, de tête, il y a une dizaine d'activités qui sont souvent doublées sur le week-end. Donc, c'est généralement le samedi et le dimanche. Vous pensiez auquel, par exemple, dans
notre je vois ici la tour de la Keun revisitée par les filles de la Maison Rouge et ça m'intriguait.
Ouais, donc ça c'est la visite de la Maison Rouge, qui est une maison de jeunes de quartier qui travaille avec l'Interstice ASBL, et donc c'est vraiment ces jeunes filles qui ont précédemment enregistré des extraits sonores de leur quartier et qui vont autour de ces extraits sonores proposer une balade, une visite guidée de ce quartier de la Maison Rouge et à la Keun, à leur père finalement, à de jeunes aussi. Et puis il y a des ateliers très pratiques, donc pour vraiment construire son fanzine, où les enfants vont avoir la possibilité de toujours relié aux questions de matrimoine, de la ville et de comment on dessine sa ville, de pouvoir créer un mini fanzine. Donc c'est ces espèces de livrets finalement qui sont des mélanges de collages, etc., qui sont aussi très artisanaux. Et puis l'atelier de collage de Xeno, donc là c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre des bouts de magazines, de flyers, etc., de pouvoir les coller, les assembler aussi avec une réflexion sur la ville et la décolonisation de l'espace public. Et j'en oublie très certainement. Et oui, on a aussi une visite guidée qui est donc le dimanche matin pour les adultes et le dimanche après-midi pour les jeunes de justement le collectif ICU, qui propose une visite futuriste de la ville, donc où ils imaginent ce que l'espace public sera dans une vingtaine d'années, encore avec ces questions décoloniales, évidemment, de se dire que tous les questionnements qu'il y a autour des statues, des traces du passé colonial belge, etc. Et alors, il y a la visite aussi, qui est une de nos visites best-of de Camille Kervella, qui est membre de l'architecture qui dégenre, qui propose pour la première fois sa visite Queering Brussels, donc sur toutes les questions cuir, avec son expertise sur ces questions-là, aux adolescents et adolescentes. Donc ça, c'est une visite qui, en plus, est proposée pour une tranche d'âge un peu plus grande, donc pour les 16-20 ans. Et ça va aussi être super. Et c'est une des premières fois qu'elle guidera un groupe plus jeune, et je pense qu'elle adore ça aussi, et que c'est très riche en réalité de pouvoir donner un contenu à différents groupes de personnes. Ça donne des interactions, des échanges qui sont tout à fait différents.
Et j'avais une question, est-ce que le public est plutôt féminin dans vos activités?
Oui, bien sûr, évidemment.
Et par exemple, ces activités jeunesse, est-ce que vous constatez que c'est plutôt des jeunes filles qui...
Justement, au niveau des activités jeunesse, en tout cas l'année dernière, donc cette année, je sais pas encore, mais l'année dernière, il y avait quand même des filles et des garçons. Donc ça, je pense que... Et c'est vrai qu'on ne s'était pas forcément fait la réflexion, mais il y a plus de mixité au sein des plus petits des plus jeunes. Mais c'est une réalité. On a un ratio qui évolue. De mieux en mieux, on n'est certainement pas à une parité, et on peut évidemment pas dire que nos visites sont à 50%, que 50% des personnes qui y assistent sont des femmes et l'autre des hommes. Donc voilà, c'est clairement pas une parité. Je crois que là, l'année passée, on devait être autour de 70%, 30%, quelque chose comme ça. Donc non, c'est une évidence que c'est davantage des personnes concernées, finalement, qui vont assez vite aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui se sentent concernés par ce qu'on apporte et ce qu'on propose, mais c'est une réalité qu'ils sont moins nombreux, alors qu'ils sont tout à fait les bienvenus. Donc venez.
Eh bien, merci Audrey. Merci. Donc, je rappelle, le site, c'est matrimonydays.be. Oui. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter toutes les activités, voir celles pour lesquelles vous pouvez encore vous inscrire. Les activités grand public, il faut aussi s'inscrire.
Oui, en fait, il faut s'inscrire à tout. Et encore une fois, tout est gratuit. Mais d'un point de vue logistique, pour nous, c'est ingérable de ne pas faire d'inscription. Et puis aussi, très simplement, on est limité en termes de place, donc oubliez, effectivement, il faut s'inscrire.
Ok, eh bien merci Audrey Van Brabant d'être venue présenter ce programme des 5e journées du matrimoine qui auront lieu donc le 29 et 30 septembre et 1er octobre. Merci beaucoup.